L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
L'Union internationale pour la conservation de la nature a dévoilé lors de son congrès mondial des chiffres qui résonnent comme un signal d'alarme. Près de 100 espèces supplémentaires d'abeilles sauvages européennes ont rejoint la liste des espèces menacées de disparition en l'espace d'une décennie. Les bourdons et les collettes figurent parmi les plus touchés, avec plus de 20% de leurs espèces désormais confrontées à un risque réel d'extinction. Ces insectes, pourtant discrets dans nos paysages quotidiens, jouent un rôle absolument central dans le maintien de la biodiversité européenne et de notre alimentation. Le problème ne peut malheureusement pas être résolu par un simple recours aux colonies artificielles d'abeilles domestiques, puisque ces dernières, bien qu'utiles, représentent moins de 1% des espèces existantes et ne peuvent compenser la diversité fonctionnelle apportée par les populations sauvages. Chaque espèce remplit un rôle spécifique dans la pollinisation et leur disparition crée des vides impossibles à combler. Les experts de l'UICN pointent deux menaces principales qui agissent souvent de concert. La première est la destruction et la fragmentation des habitats naturels, en particulier la disparition des marais et des prairies riches en fleurs, essentielles à la survie de ces insectes. L'urbanisation galopante et la modification des paysages agricoles réduisent drastiquement les zones de nourriture. Et la seconde raison, c'est tout aussi dévastatrice, c'est l'utilisation intensive de produits phytosanitaires employés dans l'agriculture moderne. Alors pour ne pas céder quand même au pessimisme, cette semaine je vous propose de découvrir Marie. Marie des abeilles comme on l'appelle. Elle vit au milieu de ses ruches qui sont tout contre sa maison. Elle ne se considère pas comme apicultrice mais propose du miel, de la propolis et bien d'autres produits de ces abeilles qui font du bien à notre corps. Elle propose également de respirer l'air de ses ruches, qui est, paraît-il, source de mieux-être. Bienvenue dans le monde de l'apithérapie. Alors, bonne écoute à tous. Bonjour Marie.
Bonjour, enchantée. Et oui, je veux bien vous parler de ma vie avec les abeilles, parce que c'est plutôt ça en fait. Je suis arrivée dans ce bel endroit qu'on a acheté à plusieurs. 18 hectares de nature et voilà. Et de suite... est venue l'idée d'avoir des ruches. On n'y connaissait absolument rien. Et moi, je suis autodidacte parce qu'en fait, on n'a jamais suivi un rucher école ou faire des études agricoles. On est arrivé là un peu, on va dire, à l'époque post-hippie. Et on le revendique absolument. Donc, on s'est installé. On a été pas très loin, à 2-3 km de là, prendre une dizaine de ruches. Et puis, hop, c'est parti. Mais il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait aucune maladie, aucun prédateur. Et en fait, on pouvait très bien faire de l'apiculture sans rien y connaître, ce qui n'est plus le cas du tout. Je tiens à le préciser. Faire de l'apiculture aujourd'hui sans rien connaître, c'est voué à l'échec total. Hein. Elles survivront peut-être une année, peut-être deux, mais pas plus. Même, je suis sûre qu'elles ne passeront pas de saison. On n'allait même pas dans le corps de ruche. Ceux qui connaissent savent qu'on change les corps, on change les quatre décors, on va nettoyer. Enfin, maintenant, on fait plein d'autres choses. Mais à l'époque, on faisait ça. Nous, on ne le faisait même pas. C'est-à-dire qu'on avait posé nos ruches. Au printemps, on mettait des hausses. À la fin de l'été, on les reprenait, on leur disait salut, merci beaucoup, on remerciait. Et voilà quoi, et elles se débrouillaient. Il y avait à cette époque-là, existait encore quelque chose qui est naturel chez elles, ça s'appelle l'autocésure. C'est-à-dire que quand une reine est trop vieille, l'instinct de la ruche se met en route et la vieille reine va partir recréer un essaim. Voilà, et puis la nouvelle ruche a été élevée en même temps. Et ça se produisait comme ça, c'était magique. Et puis d'année en année, les années ont passé, 20 ans, hein, où je vivais comme ça avec les abeilles. C'était pour notre consommation, les amis, on en vendait un tout petit peu. Donc moi, je ne me considère pas du tout comme une apicultrice. Hein. Voilà, je travaillais à l'extérieur, on travaillait tout le monde à l'extérieur. il y a eu des séparations, ça a bougé. Bref, je me suis retrouvée avec mes Russes seule il y a déjà un petit moment. Et là a commencé une autre aventure. Effectivement, je me suis rendu compte que mes abeilles mouraient, que je n'arrivais plus à les maintenir en état. Et il m'a fallu rattraper les wagons d'apiculteurs qui, eux, avaient été... avaient baigné dans ces maladies, avec ces prédateurs, etc. Et moi, j'étais cuicui les petits oiseaux, à imaginer que non, j'allais avec des huiles essentielles arriver à gérer. Donc, je reperdais mes abeilles. Enfin, ça a été 7-8 années très, très difficiles pour moi parce que c'était inconcevable pour moi de leur donner de la chimie. C'était inconcevable pour moi de les nourrir l'hiver. C'était inconcevable tout court, quoi. Donc, il a fallu que je passe par le petit entonnoir de l'acceptation de ce qui devenait, de ce que devenait l'abeille, de ce que devenait l'apiculture. De plus, à un moment, je me suis retrouvée au chômage, j'ai été licenciée économique, et est arrivée l'abeille, quoi. Bon, alors pas l'apiculture classique, évidemment, puisque c'est pas possible, c'est trop lourd, il faut transhumer. Et puis moi, j'ai toujours pratiqué une apiculture douce, en autosuffisance, mais guère plus. Donc ça, c'était pas envisageable. Et évidemment, la magie des abeilles, quand elle doit se mettre en place, ça arrive très vite. M'est arrivée une formation d'apithérapie sur un plateau. Je ne connaissais même pas le terme. Et là, je suis partie dans les produits de la ruche. L'apithérapie, ça concerne 11 produits de la ruche. Il y a évidemment le miel, la gelée royale, la propolis que tout le monde connaît, le pollen, qu'est-ce qui est encore en classique, la cire d'abeille, l'apis mellifica. Mais il y a d'autres produits que j'ai découverts et ça a été une vraie révélation. C'était des produits que personne, pratiquement même au jour d'aujourd'hui, ne connaissent en France. C'est-à-dire ce que moi j'appelle la pyrène. C'est un sous-produit de la gelée royale, mais qui est bourré de coenzyme Q10. C'est une merveille. C'est l'air des ruches qu'on va aller visiter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vient respirer l'air des ruches chez moi pour l'asthme et tout ce qui... découle un peu de l'asthme, les allergies au pollen, les allergies à plein de choses, les eczémas, les psoriasis, les choses un peu comme ça qui sont liées à la peau, donc aux poumons. Il faut dire que je suis aussi diplômée en médecine chinoise, donc ça s'est tout mis en... ça s'est rassemblé en fait quand j'ai commencé l'apithérapie. Ma prof était aussi professeure de médecine chinoise. Elle m'a dit « Oh, bah, si tu es shiatsuka, tu peux donc faire des massages au miel. » Donc du coup, je me suis mis à faire des soins au miel, à la gelée royale, plein de choses. Tout s'est emboîté comme une évidence. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je vis uniquement des abeilles et des plantes qui m'entourent.
Qu'est-ce qui leur est arrivé à tes abeilles ? Tu as dit qu'à un moment, il y a eu une forte mortalité. Tu sais ce qui leur est arrivé ?
Il y a eu la brebis qui a eu une maladie. Il y a eu la vache qui a eu une maladie. Il y a eu la brebis. Donc moi, je pense qu'en premier, voilà, il y a des fermes vivrières là, qui sont autour. Et en fait, ces petites fermes-là prennent très vite peur quand ils peuvent perdre une vache ou leur cheptel. Et donc, ils aspergent si on leur dit c'est une bouche, allez hop, l'insecticide. Et donc, les abeilles, c'est très, très fragile. Je crois que mes problèmes ont commencé avec ces maladies sur les bovins et les ovins. Tu vois, je l'avais oublié ça. Et puis, le changement climatique qui s'est mis à peu près à avancer tout doucement avec des pluies qui n'en finissaient pas au printemps, à la saison où on récolte. Donc, elle commençait à ne plus avoir autant de réserves qu'avant pour l'hiver. Donc, il a fallu nourrir, et ça pour moi c'était horrible de nourrir mes abeilles puisqu'elles étaient dans un milieu on ne peut plus sauvage. Il n'y a pas du tout, il y a des exploitations mais il n'y a pas de prés, il n'y a pas de champs, il n'y a pas, donc comment, voilà, donc j'ai mis du temps, on a mis tous du temps, les apiculteurs, à se rendre compte que nos abeilles mouraient à cause de ces insecticides-là. Ça a été un long apprentissage, puis après est arrivé le varroa.
C'est quoi le varroa? C'est un pou, c'est ça?
Ouais, c'est une espèce de une espèce de tique. Si on en avait deux, comme elles ont en général sur elles, ça nous prendrait la totalité du ventre. C'est pour dire, pour mettre un rapport à un humain, leur tique à elles prend pratiquement un tiers de leur corps, quoi. Donc c'est énorme. Donc elles tirent les substances des abeilles, et les abeilles finissent par être complètement déformées. Donc elles ne peuvent plus travailler, les ailes sont mal formées. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas des apiculteurs qui m'en voudront de ne pas être hyper technique. Parce que voilà, je sais...
Le varroa, lui, il est venu comment ?
Ben, le varroa, il est venu dans les soutes des grands containers chinois. Hein. C'est des bestioles qui arrivent de l'autre côté de la planète. Et ici, par exemple... En Chine ou en Asie, les abeilles, elles ont un bec beaucoup plus long. Donc, elles arrivent à retirer le tic en forçant un peu. Et voilà, c'est un parasite, mais qui ne les tue pas vraiment, parce qu'elles arrivent petit à petit toujours à être sans sang, tandis que les nôtres, elles ne sont pas adaptées du tout à cet animal. Et elles ne s'en débrouillent pas encore actuellement, elles ne s'en débrouillent toujours pas. Hein. Après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a le frelon asiatique qui est arrivé depuis longtemps. Moi, je suis très peu touchée. Ça dépend des années. Mais j'essaie de piéger un petit peu au printemps. Donc, de pouvoir piéger les rennes qui ressortent de terre au moment où elles n'ont pas encore créé un nid de plusieurs milliers de frelons.
Alors on le rappelle, c'est en général février-mars qu'il faut mettre ces pièges, si vous voulez y participer. On met du vin blanc, du cassis, de la bière brune, du sirop de cassis et un peu de vin blanc dans une bouteille en plastique, par exemple, on a coupé le goulot qu'on met à l'envers. Et en général, il n'y a que, grâce en particulier à la petite dose de vin blanc du final, il n'y a que les frelons asiatiques qui y vont.
Ouais, c'est ça, bravo. Bravo, vous avez fait un bon apprentissage.
On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver après.
Something.
Alors nous sommes de retour avec Marie, Marie des abeilles. Marie des abeilles donc qui s'occupe de avec les produits de sa ruche, essaie de soigner les gens et fait des recherches là-dessus. C'est des recherches empiriques que tu as eues, c'est un mélange de choses qui existaient déjà, de choses que tu as inventées. Qu'est-ce que tu fais?
Non, je suis allée en Roumanie parce que les pays de l'Est, en fait, sont très, très évolués sur pas mal de médecines naturelles dont les scientifiques ont poursuivi les. Comme si nous, on n'avait pas eu Pasteur, qu'on n'avait pas eu les laboratoires chimiques, eh bien, on aurait travaillé effectivement pour savoir pourquoi une telle chose marchait, pourquoi le vinaigre des quatre voleurs existait et protégeait de la peste ou du choléra en 1700 et quelques, et que jusqu'en 1880, c'était dans nos officines. Et puis, oups, disparu quand sont arrivés les laboratoires, la chimie et toute la pharmacopée moderne, entre guillemets. Donc voilà, eux ont continué parce que le mur, la barrière de l'Est a fait que voilà, les paysans sont restés dans les campagnes. Les médecins ont vu que des choses fonctionnaient et voilà, sans savoir vraiment scientifiquement. Bref, ils ont vraiment une grande avancée sur nous au niveau de l'apithérapie. Et là, j'ai découvert des produits qui n'existent pas en France, que moi je fais. Mais voilà, j'en fais pas non plus de publicité parce que au jour d'aujourd'hui, on peut très vite être estampillé médecine parallèle
Illégal.
et illégale. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire avec mon envie, mon amour des abeilles et ma conscience. Donc
Après, alors la propolis est très connue, hein, c'est-à-dire on la trouve même dans les pharmacies, c'est un super. On le met un peu en préventif avant l'hiver ou dès qu'on a dès les premiers symptômes d'un rhume. C'est en général, c'est quoi, un antiviral?
antiviral,
Ouais, c'est ça.
antiseptique, antibiotique naturel, c'est le seul des 11 produits de la ruche qui est estampillé médicament. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Ils n'ont pas pu faire autrement de reconnaître les propriétés de la propolis. Il y a des tests chez les dentistes, il y a des tests chez les vétérinaires, il y a des tests de partout pour prouver l'efficience de la propolis. Et en plus, il n'y a pas d'effet de seuil. Plus on est malade, plus on peut prendre de propolis à des taux vraiment très très élevés pour des maladies graves. Et puis voilà, la propolis c'est un des produits, mais voilà, il y a vraiment d'autres. Le pollen, c'est un bijou aussi au niveau protéines, oligo-éléments. Enfin, c'est vraiment des boosters d'énergie, quoi. Hein. Ça nous remet vraiment en forme. Alors, pour finir l'histoire de la Roumanie, ils ont avancé notamment sur l'aire des ruches qu'on peut aller
Eh ben,
voir.
on va aller voir ça tout de suite. Ouais.
On va les visiter. Alors là, c'est un petit pavillon. Donc il y a deux postes. Les gens s'installent là pour une trentaine de minutes et vont respirer les phéromones des abeilles. Il faut savoir qu'il y a 11 phéromones qui ont été découverts par l'INRA, hein, Monsieur Comte, qui a passé 20 ans à essayer de voir ce qu'il y avait dans l'air des ruches, hein, tout ce qui était volatile. Et moi, quand j'ai fait mes études en Roumanie, on m'a dit, bah, l'aire des ruches, ça fonctionne grâce à la propolis, au miel, etc. Et en fait, pas du tout. Les études de ce monsieur Comte ont montré que, en fait, les grands pics qu'on retrouve, c'est les 11 phéromones. Et de manière complètement diffuse, il y a un peu de miel, un peu de propolis, mais c'est vraiment l'aire des ruches, c'est vraiment les phéromones, c'est-à-dire les bébés abeilles communiquent avec leurs adultes en envoyant des messages chimiques avec les phéromones. Et ces phéromones-là, ce qu'on imagine, hein, c'est l'hypothèse qui est retenue actuellement, c'est que ça agit en génétique, ça met le gène inflammatoire, par exemple, des poumons, qui provoque l'asthme, des bronches. Ça le met en off, ça met le bouton du gène inflammatoire en off. Mais pour ça, il faut venir un certain nombre de fois. C'est cumulatif, c'est pas magique. Disons que là, la spécificité, effectivement, c'est changer l'environnement. Alors, pour un gène, l'environnement, eh bien, c'est son décor chimique interne et il a besoin d'une certaine dose, entre guillemets, pour se dire, ah ben, quelque chose a changé, on peut peut-être mettre ce gène-là en off. Voilà, j'explique à ma façon, telle que je comprends la magie un peu de ce qui se passe, qui n'est absolument pas magique, mais moi j'aime parler de la magie des abeilles parce qu'elles nous soignent, elles nous proposent quand même toute une panoplie, c'est vraiment une pharmacopée à elles seules. Moi j'habite ici depuis 35 ans, avant je récoltais comment on appelle ça, les bébés abeilles, des essaims, je les récoltais, elles venaient partout, l'abeille sauvage n'existe plus. Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Non. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, s'il n'y a pas d'apiculteurs, il n'y a plus d'abeilles. Mais avant, il n'y avait pas besoin d'apiculteurs pour qu'il y ait des abeilles. C'est-à-dire on les maintient, on les tient comme ça, on les a dans nos mains. On a la responsabilité de ces abeilles-là, mais elles ne peuvent plus vivre sans nous. Franchement, c'est monstrueux ce qu'on a fait. En fait, moi, c'est ça. L'idée, c'est de les maintenir en apiculture douce comme ça, c'est-à-dire sans les déplacer, pour imaginer qu'un jour, elles puissent partir d'ici, faire un essaim, et que cet essaim soit viable dans la nature, ce qui ne l'est plus. Mais j'espère revoir ça un jour.
On va regarder ce que tu fais aussi. Tu dois avoir un labo pour faire tes préparations.
C'est chez la sorcière.
C'est chez la sorcière ici.
Ici, on est chez la sorcière. Donc, il y a la propolis là-haut, tu vois, dans les bocaux. Mm-hmm. La plupart sont terminées. Dans ma pièce, près de chez moi, il y a celle qui infuse encore. Parce que là, ça, on croit qu'elle est encore là, la propolis. Mais normalement, elle est filtrée. Mais c'est tellement fin qu'il y a quand même un dépôt qui se refait une fois que j'ai filtré. Toutes mes petites fioles, là.
Ah oui, alors là, c'est pas de la ruche, c'est de la prêle. Oui, bourgeon de noisetier, ça c'est quoi?
Oui, ça c'est de la gémothérapie, mais que je produis un tiers de miel, un tiers de plantes, un tiers d'alcool. Donc c'est quand même... un tiers d'eau, pardon, un tiers d'alcool et un tiers de miel. Donc il y a du miel là-dedans quand même, qui va fonctionner aussi.
Ce sont des recettes que tu as inventées toi, ou c'est des choses justement qui se font en Roumanie?
Non, alors pour le coup, la gémothérapie, c'est totalement français. Il y a ce qu'on appelle ce grand réseau de plantes, les simples. C'est un réseau national français. Et eux pratiquent la gémothérapie avec le miel, parce qu'avant, on y mettait plutôt de la glycérine. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec le miel, c'était bien, bien mieux. Et l'alcool de raisin aussi, mieux que l'agneaule ou certaines choses qui étaient utilisées de pommes. C'est le raisin qui laisse le plus passer la plante, en fait, qui lui laisse le plus de place. Et le miel aide vraiment à rentrer en synergie avec la plante.
Ah oui, là, ce sont des... On l'en voit, c'est du pollen.
Voilà, là, c'est mes cocktails santé. Hein. Donc, il y a le cocktail apithérapique qui est fait avec du miel, de la propolis, de la gelée royale et du pollen. Donc, ça, c'est vraiment une cure qu'on peut faire en début, là, en ce moment, à l'automne et au printemps, pour vraiment se prémunir des mauvais microbes. Là, c'est le cocktail à pyrène là, que je vous parlais, là, avec ce sous-produit de la gelée royale qui contient pas mal de coenzyme Q10, donc qui est un protecteur du système nerveux, du système cardiaque, qui booste le système cellulaire. C'est vraiment autant le premier, l'apithérapie, qu'est Yang, celui-là, c'est le Yin. Donc, ces deux produits sont assez complémentaires pour une bonne santé des organes et de la vitalité.
Après, c'est du vinaigre de quatre voleurs que tu as fait là-bas.
Ça, c'est le... Donc ça, c'est un mélange de plantes et de
vinaigre. Et ça, on en fait quoi? Parce que tu en as parlé tout à l'heure, je sais que j'en ai déjà utilisé, mais il y a longtemps.
Alors, le vinaigre des quatre voleurs, donc protection pour la peste, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Enfin, je crois que c'était le choléra, ils ont attrapé quatre voleurs qui arrivait à détrousser les
malades. Il rentrait dans les maisons des malades sans être malade.
Il est mort plutôt. Il est détroussé et sans tomber malade. Et puis un jour, ils se sont fait attraper. Ils ont échangé leur liberté contre la recette du vinaigre des quatre voleurs, qui jusqu'en 1880 était vendu dans nos officines. C'est encore à Saint-Lizier, il y a une vieille pharmacie à l'ancienne avec tous les tiroirs en bois, etc., qu'on peut visiter. C'est un magnifique endroit. Et il y a encore une bouteille de vinaigre des quatre voleurs d'origine de cette époque-là, quoi. Il y a 10 plantes et le vinaigre de cidre qui vient de chez moi, de mon verger. C'est moi qui fais le vinaigre. Et donc, il y a de la sauge, du romarin, de la rue, de la... Pouh, il y a de la mélisse, il y a de la... il y en a 10.
Et tout ça, tu le fais pousser ?
Soit je fais pousser, soit est récolté à moins de 200 mètres de la maison. Quoi. Toutes mes plantes, là...
Oui, c'est... Soit tu cultives, soit tu cueilles.
Je cueille, voilà. Je cueille beaucoup plus que je cultive.
D'accord. Oui, et tout ça en entretenant forcément des endroits où tu sais que ça va être... Ça va être en préservant un peu les endroits.
Non, la nature, elle est généreuse. Il n'y a qu'à se pencher. On est plein en France, en Bretagne, partout. Il y a des gens qui récoltent des plantes, qui font un travail magnifique.
Alors Marie, si des gens veulent s'intéresser à l'apithérapie et à ce que tu fais, alors déjà on va commencer par ça, par ce que tu fais. Tu as un site internet ?
Pas de site internet, mais j'ai une page Facebook, Marie des abeilles.
Et si des gens veulent s'intéresser à l'apithérapie en général, il y a des ouvrages, il y a des choses, références connues.
Oui, il y a quelques bouquins. Il y a Monsieur Percy Ducerc qui en a écrit deux. Après, il y a...
Alors Percy Ducerc, ça s'écrit P-E-R-C-I-E, plus loin du, plus loin Cer, S-E-R-T. Et ça a été un pionnier en particulier pour la conservation du pollen. Ouais, il avait déposé un brevet.
Après, moi, j'en ai une quinzaine de... Je n'ai pas vraiment toutes les références. Il y a aussi pour le soin, vraiment, des bouquins où il y a le traitement par maladie, etc. Ça, c'est un médecin roumain qui l'a écrit avec ma prof de médecine chinoise dont je vous parlais, là, pour les massages. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses.
Tu mettras ça sur ta page Facebook ?
C'est une bonne idée. C'est vrai que je n'ai pas mis toute cette collection de bouquins qui est à consulter, qui est dans l'air des ruches, mais je n'ai pas pensé à mettre la liste, effectivement.
Ah ben allez, on va mettre ça. Tu vas mettre ça sur la page Facebook quand on diffusera l'émission. Comme ça, les gens retrouveront ça. Merci Marie. Au revoir.
Au revoir et belle journée.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.